France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, émission préparée avec Mélanie Chalandon, Loïc Antoine, Fanny Richer, Sacha Mattei, Barthélémy Gaillard, réalisée par Françoise Le Floch et à la technique ce matin, c'est Nicolas Leroulet. C'est le dernier volet de notre série consacrée aux jeux vidéo, une passion mondiale. Nous avons parlé lundi du Japon, qui sait très bien exploiter aujourd'hui le filon de la nostalgie des années Mario Bros. Mardi, des jeux de guerre et des questions qu'ils soulèvent. Hier, de l'esthétique très occidentalocentrée de ces jeux. Aujourd'hui, l'e-sport, quand le jeu se prend au sérieux.
C'est une scène qui devient grandissante. C'est le moment de regarder les joueurs un peu partout, que ce soit online ou offline. Là, il faut chercher du potentiel.
C'est la passion. On est tous ensemble. C'est le partage.
C'est vrai qu'on joue avec des inconnus, mais c'est ça la force. C'est comme ça qu'on veut s'améliorer. Il ne faut pas avoir peur de se lancer.
Il y a de plus en plus de joueurs, de plus en plus de joueurs jeunes, même les anciens qui reviennent actuellement dans la communauté. Là, je pense que c'est maintenant avec le gros boom des nouveaux jeux.
And all these reasons together have led then the IOC executive board.
Pour toutes ces raisons, le comité exécutif du CIO vous propose aujourd'hui, chers amis et collègues, la création des jeux e-sport du CIO.
Eh bien non, les Jeux Olympiques d'e-sport n'auront finalement pas lieu. La nouvelle a été annoncée le 30 octobre. Ils étaient pourtant prévus pour 2027 en Arabie Saoudite. Alors heureusement, on n'avait rien construit pour la compétition. Pas de stade rutilant, pas d'hôtel flambant neuf pour accueillir les sportifs et supporters. Pas de route ni autoroute pour conduire d'un site à l'autre. L'e-sport n'a pas besoin de ce genre d'infrastructure, quoique. De la même façon, ces joueurs et joueuses n'ont a priori pas besoin de protéines ou autres stimulants, quelques kilowatts suffisent à leur confort. L'e-sport est un gouffre d'énergie pour les consoles, les ordinateurs, les tablettes, des centaines de millions de professionnels ou amateurs qui se rassemblent et surtout s'affrontent autour de jeux comme League of Legends, Counter-Strike ou encore Fortnite. Vous ne connaissez rien à l'e-sport, et bien moi non plus, mais notre invité l'étudie comme sociologue et va nous expliquer à la fois le modèle de l'e-sport, modèle économique moins rentable et plus fragile qu'il n'y paraît, la dépendance des joueurs aujourd'hui aux entreprises qui conçoivent ces jeux et en sont propriétaires, mais aussi le parcours et les ambitions de ces e-joueurs, pour ne pas dire gamers. Bonjour Nicolas Besombe.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maître de conférence en sociologie du sport à l'Université Paris-Cité. Vous travaillez sur les pratiques sportives numériques émergentes et notamment l'e-sport. Alors ça, c'est votre côté recherche. Est-ce que vous êtes aussi un joueur d'e-sport, un gamer ?
Pas tant que ça, finalement. En fait, j'ai toujours eu de l'appétence pour le jeu vidéo, mais j'ai jamais eu l'occasion pendant mon adolescence d'avoir cette culture-là. On n'avait pas la télé chez moi, on n'avait pas trop de consoles. Mais par contre, autour de moi, j'avais des amis dès le collège qui, eux, par contre, se sont beaucoup investis dans le jeu vidéo, d'où mon intérêt pour cet univers.
Alors peut-être que vos amis sont très déçus d'avoir appris le 30 octobre qu'il n'y aura pas de Jeux Olympiques de l'e-sport en 2027, comme annoncé précédemment en Arabie Saoudite. Pourquoi ce rendez-vous manqué des JO de l'e-sport? Est-ce qu'on sait pourquoi le CIO a finalement renoncé à les organiser ?
Bah alors, il y a pas de, en tout cas, de communiqué officiel. C'était un partenariat qui avait été noué entre le Comité international olympique et le Comité olympique et paralympique saoudien, donc du Royaume d'Arabie saoudite. C'est ce contrat qui a été rompu de manière, on va dire, bipartite. Les deux acteurs ont fait le choix d'arrêter de collaborer. Alors, on ne sait pas réellement si ça remet en cause l'organisation des Jeux olympiques de l'e-sport. Ça va certainement les retarder à minima, mais pour l'instant, en tout cas, ça ne signifie pas forcément un abandon de l'ambition du CIO de créer ces Jeux Olympiques dédiés à l'e-sport. Les raisons qu'on peut imaginer, c'est que l'Arabie Saoudite aujourd'hui investit massivement dans le jeu vidéo et dans l'e-sport en investissant à la fois dans les éditeurs de jeux, les organisateurs de compétitions, les équipes, les diffuseurs de ces compétitions et même dans la formation des joueurs. Ils organisent déjà une Coupe du Monde d'e-sport qui s'appelle l'eSports World Cup depuis maintenant 3 ans. Ils ont annoncé l'organisation d'une Coupe du Monde des Nations, ce qui est tout à fait inédit dans le monde de l'e-sport puisque la plupart des Coupes du Monde sont généralement par club. Et on peut imaginer que le CIO, c'est une institution qui est plutôt conservatrice, qui met du temps à se mettre en action et que la temporalité de l'e-sport va très très vite et que l'Arabie Saoudite est très rapide pour se mettre en place et que les difficultés, on va dire, à trouver un consensus avec les acteurs du mouvement olympique, que ce soit les fédérations internationales, que ce soit avec les comités nationaux olympiques et de manière générale avec les acteurs du mouvement sportif, a fait que l'Arabie Saoudite a fait le choix de dire, bon, nous on va avancer de notre côté, déjà on est déjà prêt, on le fera peut-être pas avec les anneaux olympiques, mais on a déjà nos compétitions qui sont prêtes, et puis bah, bonne chance au CIO pour organiser ça de son côté.
Donc c'est plutôt l'Arabie Saoudite qui se serait retirée, elle était la seule candidate, parce qu'en général pour les Jeux Olympiques classiques, entre guillemets, une sorte d'appel d'offres, quoi. Qui veut organiser les prochains JO, là il n'y en a pas vraiment eu.
Si, il y en a eu un, il y a eu plusieurs pays et plusieurs villes qui se sont positionnés, et après j'ai envie de dire c'est un peu au plus offrant, et aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de pays à travers le monde qui sont capables de rivaliser avec la souveraineté économique de l'Arabie Saoudite. Et donc là, l'Arabie Saoudite s'était positionnée pour financer et accueillir les 6 premières éditions, c'est-à-dire sur 12 ans. On parle d'un montant qui dépasse la centaine de millions de dollars, là où aucun autre pays à travers le monde. La France était assez intéressée, hein, et Paris tout particulièrement, mais Paris n'a pas du tout pu s'aligner face en tout cas, ce qui était proposé par l'Arabie Saoudite.
Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir aussi des incompréhensions d'ordre culturel entre les agents du CIO qui ont l'habitude du sport classique, des activités en plein air, pour le dire autrement, et qui tout d'un coup découvrent que l'e-sport, c'est pas tellement ce qu'ils avaient imaginé?
Ouais, il y a pour le coup une vraie fracture culturelle entre le mouvement sportif et plus particulièrement le mouvement olympique et l'industrie de l'e-sport. Comme je le disais, c'est une vieille institution, le CIO. Alors, c'est pas du tout péjoratif quand je dis ça, mais c'est qu'elle a un modèle de structuration qui est très particulier, qui est un modèle de structuration pyramidale avec le comité international olympique, des fédérations internationales, à l'intérieur de ces fédérations internationales, des fédérations nationales qui elles-mêmes se subdivisent en ligues régionales, en comités départementaux, en clubs et ainsi de suite. Donc on est vraiment sur une structuration très pyramidale, là où l'e-sport, lui, est plutôt structuré sur un modèle de toile d'araignée, c'est-à-dire que en fait, ces compétitions, elles se passent sur des jeux vidéo qui sont des biens privé, dont la propriété intellectuelle appartient à des éditeurs de jeux. Et donc, en gros, ces éditeurs de jeux, ils ont la régulation de leur circuit compétitif. Et de fait, c'est très éloigné du modèle sportif. Ce que connaît le CIO est pas du tout applicable en l'état pour l'e-sport. Et donc, ça a créé forcément une incompréhension sur la manière dont la collaboration pouvait se dérouler. Le CIO est habitué à ce que les fédérations, d'une certaine manière, se plie, on va dire, aux exigences du mouvement olympique, là où tout d'un coup aussi le CIO s'est confronté à une industrie qui est économiquement, en tout cas, bien plus puissante que celle du sport, ou en tout cas du mouvement olympique en particulier. Et à ce titre-là, quand le CIO a dit bah, les éditeurs vont faire comme on va demander, les éditeurs ont dit bah, non, en fait, nous, c'est notre propriété intellectuelle, on n'a pas besoin de vous d'une certaine manière, donc en fait, ça, on ne va pas suivre forcément ce que vous voulez.
Donc vous avez déjà déroulé le menu d'options, comme on disait à l'époque Mega Drive. Sur la page d'accueil, vous avez déjà semé toutes les petites graines pour la suite de notre discussion, Nicolas Besombe, que ce soit la place que prend l'Arabie Saoudite aujourd'hui dans l'e-sport et toutes les questions que pouvait poser cette compétition internationale organisée dans le Royaume saoudien et qui avait déjà fait l'objet d'appels au boycott, finalement non avenu puisque ces JO n'auront pas lieu, la question de cette puissance des entreprises éditrices aujourd'hui de contenu dans l'économie de l'e-sport. Mais il faut bien comprendre déjà de quoi on parle, Nicolas Besombe, quand, par exemple, on peut imaginer qu'au CIO, beaucoup sont toujours attachés aux, entre guillemets, ce qu'on appelle encore, chez certains, les vrais sports, que ce soit des jeux de foot, de tir, de course auto. Peut-être qu'ils pensaient qu'on allait avoir affaire à ça, mais sur un écran, quoi. Ouais. Et finalement, c'est pas du tout ça, l'e-sport. Qu'est-ce que c'est les premières traces, disons, archéologiques qu'on ait trouvées de ce qui ressemble aujourd'hui à l'e-sport? Est-ce que c'est aussi vieux ou aussi jeune selon l'âge qu'on a, que les jeux vidéo.
Tout à fait. En fait, l'histoire de l'e-sport, elle est intrinsèquement liée à l'histoire du jeu vidéo, qui est elle-même intrinsèquement liée à l'histoire du développement des nouvelles technologies. Donc, le jeu vidéo, alors je suis pas historien du jeu vidéo, mais de ce que je peux en savoir, émerge à la fin des années 50, particulièrement dans les laboratoires de recherche nord-américains, à une période, en pleine période de guerre froide et de course à la Lune. Donc, on a des supercalculateurs dans ces laboratoires de recherche qui sont utilisés pour faire du contre-espionnage et calculer des trajectoires pour lancer des fusées pour aller dans l'espace. Et donc, ces supercalculateurs vont commencer à être utilisés par les étudiants pour, de manière ludique, et c'est là où les premiers jeux vidéo vont commencer à apparaître. Et la première trace d'une compétition de jeux vidéo, elle date de 1972. Donc, 19 compétiteurs et compétitrices, puisqu'il y avait déjà des femmes à cette époque-là qui jouaient. Et
C'était quoi le jeu?
C'était un jeu qui s'appelait Space War, qui a été créé par 3 étudiants de l'université du MIT, donc près de Boston. Et la compétition s'est tenue à l'université de Stanford. Et c'était un jeu où chaque joueur, donc 5 joueurs, contrôlent un petit vaisseau dans l'espace et doivent éliminer les 4 autres compétiteurs. Et le dernier en vie est le vainqueur. Et donc le premier vainqueur d'un tournoi de jeux vidéo, qui s'appelait Bruce Baumgart, a remporté un an d'abonnement au magazine Rolling Stone, quoi. Donc ça a démarré comme ça, on va dire, quoi. Et donc vraiment, pour très brièvement parler de ce qu'est l'e-sport, donc c'est la pratique compétitive du jeu vidéo. Ça peut se passer sur n'importe quel genre de jeu, donc pas forcément des jeux de sport. Effectivement, ça a pu être aussi une incompréhension de la part du mouvement sportif, qui pensait que c'était que des jeux de foot, de basket, de skate, de surf,
ou
de tir à l'arc et ainsi de suite. La réalité, c'est que ça se passe sur plein de genres de jeux, des jeux de réflexion, des jeux de stratégie, des jeux de cartes, des jeux de rôle et ainsi de suite, sur n'importe quel type de plateforme. Ça peut être sur ordinateur, sur console, sur smartphone, sur tablette, et même maintenant en réalité virtuelle ou sur des murs interactifs. Et puis, ça peut se tenir en ligne ou en présentiel. Ça peut être au niveau amateur ou au niveau professionnel. Il peut y avoir de l'audience sur place ou pas. Il peut y avoir des viewers en ligne ou pas. Et donc, les joueurs s'affrontent pour soit des gains financiers, soit pour des dotations matérielles.
Et il y a des commentateurs.
Ouais, Zivo qui va être bien placé. Va falloir qu'il arrive à reculer après le premier shot.
Allez, surtout, attention, le duel, 20 pitch. Oui, tout à sa vol, il recule, Imolo. C'est pas super. De possibilité d'accès.
C'est super, Zivo qui tempo, avec sa salite habituelle.
Le deuxième, allez, le troisième, le quatrième, c'est les Français.
C'est fini.
Il reste plus qu'Isaac.
C'est fini.
La France va gagner un majeur. Vitality va gagner son majeur. Et les Danois vont ajouter la gamme.
Alors il faut décrire exactement ce qui se passe quand on entend Nicolas Besombe, ses commentateurs, hurler sur l'équipe qu'ils suivent et qu'ils semblent aimer, l'équipe de France, sur ces jeux. Alors c'est la grande finale de Major Champion, c'est la compétition internationale la plus importante de Counter-Strike 2, si j'ai bien compris. L'équipe, c'est Vitality, c'est une équipe où c'est un...
C'est ça, c'est un club multi-e-sport.
Une écurie, même, on dit...
On peut dire une écurie. Généralement, on parle d'organisation e-sportive, mais pour le dire plus simplement pour les auditeurs, les auditrices, c'est un club d'e-sport, et ce club est positionné, en tout cas, à des joueurs sur plein de jeux différents. Et ça, c'était l'événement, donc ce qu'on appelle un major. C'est un peu l'équivalent d'un grand chelem au tennis. C'est l'équivalent de Roland-Garros. Donc c'est un tournoi majeur. Et le club français était arrivé jusqu'en finale. La finale se tenait à Paris, et devant son public, le club français, dans lequel il y avait deux joueurs français qui ont été cités, Ziwu et Apex, ont pu remporter le grand titre.
Contre Gamer Legion. Donc c'était un match très important pour eux. Je sais pas si on dit un match d'ailleurs. Si on dit un match, une compétition. Bon, ok. Ça se passe où? Ça se passe dans un stade? Ça se passe dans une salle de concert? Parce que même si tout ça peut se faire en ligne, en réalité, il y a du public là.
Ouais, tout à fait. Là, en l'occurrence, ça se tenait à l'Accor Arena, qui accueille habituellement à la fois des concerts. Enfin, c'est une salle qui accueille des concerts, qui accueille aussi des grandes compétitions sportives. Moi, je vais régulièrement voir du basket à l'Accor Arena. Ces compétitions, lors des grandes phases internationales, elles peuvent se tenir dans des grandes arènes sportives. Aujourd'hui, cette année a été battu le record d'audience pour une compétition sur un jeu mobile qui s'appelle Mobile Legends. C'était plus de 60 000 spectateurs sur place dans le stade. On dépasse régulièrement les 20 000 spectateurs pour ces grandes compétitions internationales. Après, c'est comme dans le sport, il y a des sports qui sont très populaires, qui attirent lors des grandes phases de finale internationale beaucoup de spectateurs sur place. Le tennis, le football, bien évidemment, ou encore le rugby ou le basket en France. Et puis, il y a des sports sports plus confidentiels pour lesquels, même sur des grandes finales, il n'y a pas forcément besoin d'avoir autant de place. Les stades sont moins grands. Et dans l'e-sport, c'est la même chose. Counter-Strike, League of Legends, Rocket League attirent énormément de monde. Et puis, il y a plein d'autres jeux qui sont pratiqués de manière compétitive qui ne pourraient pas remplir l'Accor Arena. Et donc, on va se déplacer sur des Zéniths ou des Palais des Congrès ou des Parcs des Expositions avec des arènes qui sont plutôt de l'ordre de 8000 places, 5000 places, 3000 places.
Parce que dans l'e-sport, on parle aussi d'un secteur professionnel et d'un secteur amateur. Depuis quand est-ce qu'il y a des ligues professionnelles dans l'e-sport et où ?
Alors, elles émergent en 97. Pour le coup, on a une vraie date. C'est généralement, les historiens de l'e-sport évoquent cette date comme étant l'émergence de l'e-sport professionnel tel qu'on le connaît aujourd'hui. À partir de 97, avant ça, donc je l'ai dit, il y avait déjà des compétitions, mais c'était des compétitions qui étaient utilisées un peu comme des outils marketing de la part des éditeurs de jeux et qui étaient très épisodique, c'est-à-dire que en fait il y avait un tournoi qui était organisé, tout le monde pouvait s'y inscrire et puis l'année suivante on savait pas s'il allait avoir à nouveau ce tournoi. À partir de 97, il y a des communautés de joueurs qui ont dit ok, nous ces jeux-là on les trouve incroyables, on a vraiment envie de s'affronter et on pense qu'il y a vraiment la possibilité d'en faire une activité professionnelle et donc on va organiser de la même manière que dans le sport des championnats dédiés à des joueurs pour qu'ils puissent avoir une activité pour laquelle il pourrait être rémunéré. Et donc, ça débute notamment aux États-Unis avec une première ligue qui va s'appeler la CPL pour Cyber Athlete Professional League qui va être créée donc en 97 aux États-Unis. Et de manière assez étonnante, un peu partout dans le monde vont se créer à peu près à la même période plein de ligues professionnelles. Alors en Asie du Sud-Est et notamment en Corée du Sud, ça va être les World Cyber Games, les WCG qui vont se créer. En Allemagne, ça va être l'ancêtre de l'Electronic Sports League qui va s'appeler la Deutsche Clan Liga, la DECL, qui va se créer aussi à peu près à la même période en 99. En Suède, c'est la DreamHack qui va se créer. Et nous, en France aussi, Cocorico, on a aussi l'Electronic Sports World Cup qui va se créer en 2001, le SWC, et qui va être racheté ensuite par les Saoudiens, justement, il y a 3 ans, et qui aujourd'hui est devenu le WC, toujours l'eSports World Cup, mais qui était une marque française à la base.
On a combien en France de joueurs professionnels d'eSport à peu près ?
Alors, on a du mal à évaluer, mais aujourd'hui, on estime entre 300 et 400 le nombre de joueurs professionnels qui officient sur le territoire français. Ça veut dire que ce n'est pas forcément des joueurs français, c'est des joueurs de toutes les nationalités qui sont sur le territoire français.
Alors, la revue 21 avait fait paraître l'année dernière un long reportage au sein du club Easy Dream, Easy IZI. 5 joueurs en maillot bleu et blanc qui disputaient l'un des matchs les plus importants de leur carrière contre le Montpellier Hero Sport Club. Et l'enjeu était de taille, comme on dit par ailleurs dans le foot. Il venait d'enchaîner 11 matchs sans défaite, ce Montpellier Hero Sport Club, donc il fallait se mesurer à lui. Alors, on avait 10 équipes qui s'affrontaient pendant 3-4 mois pour accéder à la Ligue supérieure et tenter d'arracher une place au plus haut niveau. La Ligue française de League of Legends, est-ce qu'on peut déjà rappeler ou expliquer ce que c'est que League of Legends ? Ouais. Parce que ça fait 2 fois que je le cite et je ne sais même plus exactement ce que c'est.
Oui, tout à fait. League of Legends, pour le dire très simplement, c'est le jeu le plus populaire dans l'e-sport. C'est vraiment l'équivalent du foot. C'est là où il y a le plus de joueurs, de loisirs amateurs et aussi professionnels. Et c'est le jeu qui fait les plus fortes audiences pour ces grandes compétitions internationales. Et c'est un jeu de stratégie en temps réel collectif. C'est ce que dans le milieu, on appelle un MOBA. Donc la MOBA, c'est l'acronyme pour Multiplayer Online Battle Arena. En gros, c'est 2 équipes de 5 joueurs qui s'affrontent dans une arène virtuelle. Chaque joueur contrôle un personnage qui a des capacités, des compétences, des mages ou en tout cas des compétences qui lui permettent de prendre l'ascendant sur l'adversaire et d'éliminer les personnages de ses adversaires. Ces personnages, lorsqu'ils sont éliminés pendant, on va dire, quelques secondes, quelques dizaines de secondes, ils vont mettre, en tout cas, ça va prendre quelques dizaines de secondes à ce qu'ils réapparaissent. C'est comme s'ils étaient un peu en prison. Et puis quand ils réapparaissent, ils peuvent continuer à jouer. Les matchs durent entre 20 minutes et 40 minutes. Et le but du jeu, c'est d'aller détruire la base adverse. Donc, d'une certaine manière, d'aller marquer un but dans la base adverse. Et voilà. Et pour ça, eh bien, on essaie d'éliminer les personnages des adversaires pour prendre l'ascendant numérique et pouvoir un petit peu progresser sur le terrain.
Donc pour ce match raconté par la revue 21, le club Easy Dream doit donc battre ou détruire la base adverse du Montpellier Hero Sport Club. Problème, 10 jours plus tôt, ils ont perdu le pilier de leur équipe Highway, donc littéralement autoroute. D'ailleurs, ces pseudos, ils finissent par vraiment s'appeler comme ça, paraît-il, entre eux, tant le virtuel déborde sur le réel dans le monde de l'e-sport, dit le journaliste Rémi Bayol. Vous le constatez tous les jours, on finit par s'appeler par les pseudos,
ouais,
et tout ça prend, de ce virtuel prend le pas.
Voilà, c'est pas tant le virtuel qui prend le pas, mais pour le coup, c'est... Alors moi, l'idée que je défends, c'est qu'il y a une véritable culture e-sportive, et même, je dirais, des cultures e-sportives en fonction des scènes compétitives, donc en fonction des jeux, de la même manière qu'on peut parler d'une culture footballistique, d'une culture tennistique ou basketballistique. Là, il y a une culture de League of Legends, il y a une culture de Counter-Strike et ainsi de suite. Et donc, dans cette culture, finalement, c'est des codes, des normes, des valeurs et un jargon. Et dans ce jargon, effectivement, les pseudonymes prennent une place très importante puisque c'est l'identité de ces joueurs qui, à la base, est effectivement une identité virtuelle, mais qui, en fait, est aussi une identité réelle et que tous les fans s'approprient aussi de la même manière que les joueurs. Donc, les joueurs s'appellent par leur pseudonyme. Ouais.
Avec tous, bien sûr, leur propre histoire. Highway, par exemple, est un joueur polonais qui a de gros problèmes de santé. C'est pour ça qu'il n'est pas là pour ce match. Mais c'est aussi pour ça que dans sa vie, il passe beaucoup de temps à faire de l'e-sport parce qu'il ne peut plus faire de sport dans le monde réel, pour le dire comme ça. La poisse, disais-je, parce que c'est un vrai meneur. Lui, il parle pendant les parties alors que les autres, non. Et ça, c'est important, manifestement, pour ses coéquipiers. Alors, il y a aussi Camille Lou, qui, ces 8 dernières années, a quasiment joué tous les jours entre 80 et 100 heures par semaine, ce qui ne l'a pas empêché, dit-il, de décrocher son bac avec la mention bien. Combien de temps dure en moyenne la carrière d'un gamer ou d'un joueur d'e-sport ?
Ça va dépendre grandement des jeux, mais une réalité, c'est qu'aujourd'hui, les carrières sont relativement courte. C'est assez courant d'avoir des joueurs qui arrêtent de jouer au plus haut niveau professionnel passé 25 ans. Donc ça peut paraître très étonnant. Après, ils commencent aussi très très jeunes. Et surtout, c'est un écosystème et ce sont des carrières qui sont particulièrement stressantes sur lesquelles il y a une pression sur les épaules de ces jeunes joueurs. Une pression bien évidemment en termes de performance, mais aussi une pression économique, parce que ces performances, elles sont liées à des gains financiers et aussi à de la visibilité pour les clubs qu'ils représentent. Et une forte présence sur les réseaux sociaux qui peut aussi être particulièrement difficile à surmonter pour ces joueurs. Et donc, ces carrières qui s'arrêtent assez tôt, c'est lié notamment au fait qu'il y a un manque de structuration de l'écosystème e-sportif, c'est-à-dire que du fait qu'on n'a pas d'organisation pyramidale, fédérale, comme on peut le voir dans le sport, eh bien, ces joueurs, pour pouvoir avoir une carrière qui soit viable économiquement, il faut qu'il soit tout le temps performant que au plus haut niveau, parce que dès qu'ils descendent dans la ligue inférieure, dans la deuxième division, ben en fait, ils peuvent pas en vivre, contrairement au football où jusqu'à la troisième ou quatrième division, on peut continuer de vivre de son activité de footballeur professionnel. Dans l'e-sport, c'est pas possible, il y a que au plus haut niveau. La concurrence est très rude. Et le deuxième cas, c'est que pendant très longtemps, les joueurs avaient pensé qu'il fallait surtout beaucoup s'entraîner, beaucoup jouer, et pas forcément bien s'entraîner ou bien jouer. Et donc, les joueurs avaient tendance à avoir une pratique qui était intensive, voire excessive. Et le corps, c'est leur outil de travail et c'est leur outil de performance. Et les clubs n'avaient pas trop pris conscience qu'il était important d'encadrer, on va dire, la santé de ces joueurs. Et donc, on avait aussi des joueurs qui avaient des blessures à la fois physiques, mais aussi des blessures psychologiques, troubles de l'anxiété, dépressifs, troubles du sommeil, troubles des comportements alimentaires ou des troubles musculo-squelettiques et troubles posturaux. Et c'est que depuis quelques années que les clubs ont enfin pris conscience que, en fait, le corps, c'était cet outil de travail. Et donc, eh bien, c'est pour ça qu'on voit les carrières qui commencent enfin aussi à s'allonger.
On prend un peu plus soin d'eux, comme en témoigne ce joueur professionnel du jeu Apex Legends. Il en parlait aux Parisiens il y a quelques temps.
On n'est pas rachuté sur une carte. Donc on n'a pas d'équipement et le but c'est de fouiller un peu cette carte, donc toutes les maisons qui sont à notre disposition et tous les recoins pour avoir des armes, avoir de l'armure et être le dernier en vie justement donc sur la même carte. On est vraiment encadré, on n'est pas tout seul dans notre chambre à faire ça du matin au soir, on a des horaires, on a quelqu'un qui cuisine pour nous, on a un ostéopathe. Donc on va dire qu'en termes de bien-être on est vraiment à un autre niveau que si on jouait chez nous. Donc on va dire que ça apporte toutes les conditions physiques et mentales nécessaires pour jouer au plus haut niveau, je dirais. Le but, c'est de jouer le plus possible, connaître toutes les mécaniques qui sont propres au jeu et après faire des tournois en ligne et se faire connaître comme ça, en fait. Et ça prend du temps, parfois. Beaucoup de temps.
un ostéopathe pour mieux jouer à Apex Legends. Nicolas Besombe, qu'est-ce que c'est Apex Legends ?
C'est un jeu de tir en première personne qui se pratique sous un format de ce qu'on appelle de Battle Royale, c'est-à-dire que c'est des dizaines de joueurs qui jouent dans un même univers virtuel et ils doivent tous s'éliminer les uns les autres et c'est le dernier survivant qui remporte la partie.
C'est pas très esprit de Noël ça quand même. On diffuse cette émission le 25 décembre et on n'est pas très dans l'esprit de Noël. Alors il y a les professionnels et puis les amateurs avec quelques événements épisodiques. En France, on a les Gamers Assembly à Poitiers, c'est chaque année à Pâques. Comment ça se déroule? Où est-ce qu'il faut être sur place? Où ça se déroule à distance? On gagne quoi? Enfin, plein de questions à vous poser sur cet événement annuel.
On a un tissu amateur et associatif qui est très très dynamique en France et ça existe partout dans le monde. Alors ça prend pas forcément le terme de tissu associatif, mais voilà, beaucoup de joueurs amateurs qui se réunissent lors d'événements en physique, ce qu'on appelle dans le jargon des LAN pour Local Area Network. Ça veut dire on joue en réseau local et on joue pas sur Internet. Et donc pendant 3 jours, dans le cas de la Gamers Assembly, 2500 joueurs se réunissent à Poitiers, au parc des expositions de Poitiers, dans les deux grands hangars plus l'amphithéâtre de Poitiers, et sont organisés une quinzaine de tournois sur différents jeux. Ça peut être Apex Legends, ça peut être Rocket League, ça peut être League of Legends, ça peut être Valorant, Counter-Strike, Starcraft et ainsi de suite. Et les joueurs s'inscrivent en ligne, là pour le coup, plusieurs mois en amont, comme si on s'inscrivait à un marathon et on retire son dossard en amont, quoi. Donc ils s'inscrivent, ils payent pour participer. Cet argent qui est récolté va servir à organiser l'événement, mais aussi à participer, à faire une petite cagnotte pour les vainqueurs. Et il y a des sponsors qui vont venir se rajouter, qui vont offrir des lots. Ça peut être des casques, des claviers, des souris, des manettes.
La Ferrari de l'organisateur, non? Ça, c'était en 97.
Ça, c'était en 97, exactement. L'éditeur de jeu, enfin le développeur du jeu Quake, qui avait mis en jeu sa Ferrari pour faire un gros buzz, qui a bien fonctionné pour le coup. Là, on c'est plus des Ferrari, c'est plutôt des claviers, des souris et un peu d'argent. Et les joueurs, pendant 3 jours, vont s'affronter dans un esprit très bon enfant et parfois peut-être un peu moins, et pour essayer petit à petit de gravir les différents échelons. La grande majorité des joueurs sont totalement amateurs, certains peuvent être un peu défrayés par leur club, mais ça s'arrête à ça. Et puis ils s'affrontent dans leur hangar, et puis dès qu'ils arrivent aux phases finales, ça se passe dans l'amphithéâtre ou en tout cas sur la grande scène où il y a 3000 fans ou en tout cas 3000 spectateurs qui viennent les regarder. À la fin, ils soulèvent une coupe et puis ils repartent avec quelques centaines d'euros et un peu de matériel.
Donc tout ça se passe aussi de façon associative, des structures associatives plus ou moins grosses. Il y en a une très grosse notamment à Lyon, Lyon eSport, mais il y en a de plus petites. Enfin, tout ça se met en place cas à cas. On monte les équipes aussi parfois sur Discord, cette plateforme dont on a parlé dans notre série sur les mouvements sociaux au Maroc, au Népal, à Madagascar et ailleurs. En fait, cette plateforme sert surtout à ça, aux gamers, comme on dit, si je ne dis pas de bêtises. Alors pour revenir à nos non-Jeux Olympiques, Nicolas Besombe, est-ce qu'il y a des équipes nationales maintenant de l'e-sport ?
Alors, très très rarement, ça se fait plutôt en Asie, c'est quelque chose qui est peu commun encore pour le moment dans l'e-sport, même si, alors historiquement, tout à l'heure j'évoquais les World Cyber Games qui se tenaient en Corée du Sud, était une compétition qui essayait de mimer les Jeux Olympiques, donc c'était une compétition qui était plutôt par nation. Mais comme je l'ai expliqué tout à l'heure, comme la structuration de l'e-sport est très différente de celle du sport et qu'il n'y a pas forcément des fédérations e-sportives sur le modèle sportif partout dans le monde, et notamment en Occident, c'est beaucoup moins le cas. En Occident, on n'a pas de compétition par nation. En Asie, pour le coup, le modèle asiatique est plus emprunté à celui du sport, parce que les Asiatiques ont été assez pionniers à un moment où les éditeurs de jeux n'avaient pas trop pris conscience qu'il y avait des joueurs qui s'affrontaient sur leurs jeux vidéo, parfois. Donc en fait, les Asiatiques, et donc la Chine, le Japon, la Corée du Sud notamment, mais pas que, ont très vite emprunté le modèle sportif et ont créé ces fédérations et eux participent aux Jeux Asiatiques, donc qui sont la version continentale des Jeux Olympiques, mais donc sur le sport, hein, c'est vraiment les Jeux Asiatiques du sport. Et le comité asiatique olympique a fait le choix d'intégrer l'e-sport dans cette compétition, et donc les comités nationaux olympiques sportifs sélectionnent des joueurs pour représenter leur pays lors de ces compétitions sur des jeux tels que League of Legends.
Alors je disais tout à l'heure dans l'introduction qu'il ne faut pas nécessairement de nouvelles infrastructures pour les compétitions d'e-sport. On ne va pas refabriquer des stades, des salles de concert ou autres. On utilise ce qui existe déjà. Néanmoins, il faut quand même quelques infrastructures, centres de données, serveurs dédiés pour se connecter et jouer dans de bonnes conditions. En watts, ça donne quoi? C'est-à-dire, est-ce que ce sont vraiment les pays les plus équipés en la matière qui domine aujourd'hui l'e-sport, ou ça ne se mesure pas comme ça?
Alors, ça ne va pas forcément être que l'équipement qui va faire, on va dire, la domination d'un pays sur l'autre. Aujourd'hui, tous les pays peuvent accueillir, d'une certaine manière, des compétitions à différentes échelles. C'est sûr que plus vous avez des stades modernes qui permettent d'avoir une super connectivité, des écrans LED géants, et ainsi de suite, plus ça aide à bien se positionner. Par contre, ce qui fait aujourd'hui la domination d'un pays par rapport à un autre dans l'e-sport, c'est les investissements économiques de manière générale, que dans toutes les infrastructures. Alors ça peut être bien évidemment dans le bâtiment et dans des arènes, mais ça peut être aussi des investissements dans des clubs, dans des organisateurs d'événements, ça peut être aussi tout simplement des politiques publiques qui sont mises en place, des aménagements législatifs qui permettent d'accueillir des joueurs étrangers sur leur territoire sans forcément avoir de visa qui soit compliqué à avoir. Ça peut être aussi le rachat de développeurs de jeux, d'éditeurs de jeux, de grandes marques autour de cela. Et c'est vrai que si historiquement les deux grands pôles, voire les trois grands pôles de l'e-sport étaient plutôt l'Amérique du Nord avec États-Unis, Canada et pas le Mexique, hein, donc l'Amérique du Nord très au nord, l'Europe centrale et puis l'Asie du Sud-Est, notamment autour de la Corée du Sud, on voit depuis maintenant 5-6 ans un déplacement, on va dire, de ce centre géopolitique de l'e-sport vers le Moyen-Orient et notamment avec l'Arabie Saoudite qui investit massivement, donc on parle de plus de 39 milliards de dollars sur les 5 dernières années. Effectivement, aujourd'hui, on voit clairement que l'e-sport constitue un réel outil de soft power pour différentes nations, et la Chine et notamment l'Arabie Saoudite, en tout cas, se tirent la bourre à ce niveau-là.
En Arabie Saoudite, le prince Ben Salman pourrait à lui seul monter une équipe.
Pour décompresser et se détendre, par exemple, qu'est-ce que vous aimez faire?
Des jeux vidéo.
Vous êtes un grand joueur ?
Depuis que je suis enfant, j'adore ça. Ça me permet de me déconnecter de la réalité.
Donc les jeux vidéo occupent une place importante dans votre ministère, n'est-ce pas ? Il y a aussi une part importante de sport.
L'e-sport est l'un des phénomènes les plus importants au monde. C'est l'un des secteurs qui connaît la croissance la plus rapide de la planète. Ça croît de 30% chaque année. Donc chaque année, notre retour sur investissement est de 15 à 25% de profit. C'est vraiment incroyable et on ne veut pas rater ça. C'est comme surpasser Hollywood aujourd'hui. Vous avez plus de 2 milliards de vues, plus que le plus gros film hollywoodien.
C'est incroyable.
Donc c'est sérieux.
Mohamed Ben Salman interrogé sur sa passion pour l'e-sport. Alors pourquoi l'Arabie Saoudite s'est-elle positionnée sur les JO de l'e-sport ? Vous nous avez répondu déjà un petit peu à cette question, Nicolas Besombe, tout à l'heure, en parlant à la fois de l'intérêt de Ben Salman pour les jeux vidéo, mais aussi de cet investissement massif dans l'e-sport, dans quasiment tous les pays du Golfe d'ailleurs. Il y a aussi une question d'image pour l'Arabie Saoudite, et est-ce que les éditeurs de jeux vidéo y trouvent à redire à ce sujet-là ?
En fait, l'Arabie Saoudite, aujourd'hui, elle profite d'une situation que vous avez évoquée en introduction, à savoir que le secteur de l'e-sport, d'un point de vue économique, aujourd'hui, n'est pas soutenable. C'est-à-dire que les modèles économiques font qu'il y a plus de dépenses que de revenus qui arrivent dans le secteur, et il y a une inégale répartition de la valeur qui est générée dans le secteur. Je m'explique, c'est-à-dire que aujourd'hui les joueurs créent de la valeur par leur performance, les clubs créent de la valeur en encadrant ces joueurs, les organisateurs d'événements créent de la valeur en spectacularisant les compétitions, les commentateurs en rendant ça intelligible, les sponsors en investissant dedans, et les développeurs de jeux en créant ces jeux. Sauf que c'est les éditeurs de jeux qui, étant les régulateurs de ces jeux, qui captent la plupart de cette valeur. Donc les clubs n'ont pas beaucoup d'argent, les organisateurs d'événements n'ont pas beaucoup d'argent, quelques joueurs gagnent bien leur vie, mais ça reste quelques joueurs, et donc le secteur est quand même assez précaire et assez instable. Et donc l'Arabie Saoudite, qui aujourd'hui a une forte souveraineté économique et qui cherche à diversifier, elle pour le coup, son économie et ne plus être dépendante que du pétrole, va investir dans le sport avec une stratégie qui s'appelle Vision 2030. Elle investit dans le golf, elle investit dans la Formule 1 et ainsi de suite, et aussi dans l'e-sport, notamment parce qu'elle a une démographie de sa population, je crois que c'est 70% de la population qui a moins de 35 ans.
Et donc, des pétrodollars.
Et ouais, et forcément des pétrodollars. Et donc, ce qui se passe, c'est que c'est un superbe outil e-sport pour les Saoudiens, un outil de un levier d'influence, quoi, d'une certaine manière. C'est une manière de diversifier ses sources de revenus, comme l'a rappelé le prince héritier. Mais c'est aussi une manière de détourner un peu l'attention du grand public sur la question des droits humains, sur laquelle l'Arabie Saoudite se fait régulièrement et tous les ans reprendre par les différentes ONG spécialistes du sujet. Et donc c'est une manière aussi d'essayer de se moderniser, de montrer, on va dire, une autre image que celle pour laquelle elle est régulièrement prise en considération. Et les clubs, les éditeurs de jeux, les organisateurs d'événements, en fait, même s'ils ont des convictions qui peuvent être assez éloignées de celles des valeurs portées par l'Arabie Saoudite, se retrouvent à un moment confrontée à un dilemme, à savoir soit elle ferme boutique, ses structures, parce que bah, l'économie est pas soutenable, le business model de ces structures est pas soutenable et donc elles doivent cesser leurs activités, soit tout d'un coup l'Arabie Saoudite arrive et elle dit en fait nous on peut vous donner tout de suite plusieurs centaines de milliers de dollars, voire des millions de dollars, juste parce que vous êtes là. Et donc bah ça, on observe que la plupart de ces structures finissent un peu par céder aux appels de l'Arabie Saoudite.
D'où ce que vous nous rappeliez en début d'émission, c'est que ces entreprises qui par définition ont des intérêts financiers sont a priori incompatibles avec ce qu'est censé être le sport olympique, un bien commun selon l'expression consacrée, et que c'est aussi peut-être ça qui a pesé au moment des discussions qui n'ont finalement pas abouti entre le CIO et l'Arabie Saoudite pour la suite, ou...
Bah ça a constitué un vrai problème. Alors pas tant sur les discussions qui n'ont pas abouti entre l'Arabie Saoudite et le CIO, mais plutôt sur la compréhension du CIO de comment fonctionnait l'e-sport. C'était clairement pas évident. La question de la propriété intellectuelle pour le mouvement sportif, c'est quelque chose qui fait pas partie de son ADN, à part quelques sports très spécifiques, comme par exemple les sports automobiles, où là, pour le coup, les écuries sont des propriétés intellectuelles, les circuits sont des propriétés intellectuelles. Donc, le sport automobile, d'ailleurs, est certainement l'une des fédérations, la FIA, donc la Fédération Internationale de l'Automobile, qui est celle qui a le plus facilement embrassé l'e-sport, a réussi le plus facilement à l'intégrer dans ses disciplines. Là où pour le football, le basket, le golf ou l'escrime, ça devient beaucoup plus délicat parce que, c'est pas du tout la même culture. Et pour le CIO, tout d'un coup, de se retrouver face à des entreprises privées qui cherchent à maximiser leurs profits, mais surtout qui sont potentiellement plus puissantes, encore une fois, économiquement que le CIO. Le CIO, c'est à peu près 2 milliards de chiffre d'affaires par an. Electronic Arts, qui est l'éditeur de jeux, notamment d'un jeu comme FC25, donc anciennement FIFA, c'est plus de 40 milliards de chiffre d'affaires par an. Donc tout d'un coup, quand le CIO dit à Electronic Arts, vous faites un jeu vidéo de foot, le foot, ça nous appartient, donc votre jeu vidéo, vous allez vous plier à nos règles, Electronic Arts se retourne vers le CIO et dit « En fait, vous êtes qui ? Nous, on pèse 20 fois plus que vous. En fait, on n'a pas besoin de vous et on peut continuer. » D'où le fait d'ailleurs que Electronic Arts ait arrêté sa collaboration avec la Fédération Internationale de Football, la FIFA, et que le jeu s'appelle plus FIFA, mais s'appelle FC25. Et ce qui n'empêche pas le jeu d'être le premier bien culturel en France en termes de nombre de ventes, alors même qu'il s'appelle plus FIFA.
Et peut-être le premier jeu en termes de ventes, mais néanmoins pas tellement rentable. En tout cas, il ne faut pas aller chercher les recettes du côté des tickets d'entrée par définition, ni sur les revenus des droits télévision, ni sur les paris sportifs. Quand on parle d'e-sport, tout repose en fait beaucoup sur les sponsors. Lesquels, et qu'est-ce qui les intéresse, les sponsors, dans le fait d'être là dans ces compétitions?
Donc effectivement, c'est le modèle économique de l'e-sport repose à plus de la moitié sur le sponsoring et les investissements privés. Ces sponsors, historiquement, au tout début, c'était plutôt des sponsors qui étaient issus des nouvelles technologies, des télécommunications ou du jeu vidéo. Donc on peut en citer quelques-uns. Ça pouvait être Dell, HP, à l'époque Numéricable et ainsi de suite. Donc les ancêtres de nos fournisseurs d'accès Internet aujourd'hui. Et puis, quand Amazon, notamment, a racheté la plateforme Twitch sur laquelle sont diffusées ces compétitions, eh bien ça a envoyé un signal très fort à des acteurs qui n'ont rien à voir avec les nouvelles technologies, les télécoms ou le jeu vidéo, que finalement il fallait peut-être investir sur cette branche-là. Et donc on a vu apparaître dans un premier temps des acteurs des fast-food, des sodas, des boissons énergisantes, puis ensuite des banques, des assurances. Et aujourd'hui on se retrouve même avec des marques de luxe qui investissent énormément dans le secteur. Pour quelle raison est-ce que ces annonceurs et ces marques et ces sponsors investissent? C'est que la population sont des fans d'e-sport. Sociodémographiquement, c'est plutôt des jeunes qui sont âgés de 12 à 35 ans, donc génération millennials, génération Z et maintenant la génération alpha. C'est des générations, notamment les millennials, dont je fais partie, qui a eu tendance à ne pas regarder la télé, ou en tout cas à ne plus la regarder comme avant. Donc on ne regarde plus les pubs. Quand on est sur Internet, on a des bloqueurs de publicité, donc on n'est plus ces annonceurs n'arrivent plus à toucher cette cible-là. Et donc, cette cible qui est intouchable, aujourd'hui, elle regarde l'e-sport. Et donc, c'était une manière d'essayer d'aller toucher cette cible.
Vous savez, Nicolas Besombe, à quoi ça va ressembler la génération Z, comme vous dites, dans quelques temps? Eh bien, un groupe qui s'appelle Soul Béton, qui est constitué de Robo Sapiens et Franck Joannick, vous le dit.
Mais mes visions a fêté ses 80 ans. Toujours toute sa tête, mais plus toutes ses dents. Mais cela ne la gêne nullement. Sauf pour croquer des pizzas, évidemment. Elle a rarement bougé de son canapé. Mais elle est connue dans le monde entier pour avoir plusieurs fois gagné des championnats de Street Fighters et de Mortal Kombat. Entre quatre murs devant son écran géant, c'est là qu'elle passe la plupart de son temps. Sur le guéridon, une photo de Miyamoto, le créateur des frères Luigi et Mario. Des consoles de salon, c'est une déesse. Il faut dire qu'elle est capable des plus grandes prouesses. Rien ne l'effraie, rien ne lui fait peur. Elle peut jouer sans s'arrêter plus de 12 heures
dans le salon de Mémé Vision. Pas de question pour un champion, le rustique laisse la place au joystick. Si Julien le perce, mamie panique. Dans le salon de Mémé Vision, pas de question pour un champion, le rustique laisse la place au joystick. Si Julien le perce, mamie panique.
Mémé Vision vidéo, mais aussi débat. Une vie en temps de scie comme un jeu vidéo. Elle en a marre d'être toujours en solo. Vivre seul ne permet pas le débat. Avoir une manette dans chaque main ne change rien. Mémé se sent seul comme un chien. Mais quelle bonne idée, un animal de compagnie. Mémé va s'acheter un Tamagotchi. Beaucoup de gens s'inquiètent pour sa santé, de la voir si loin de la réalité. Les jeux vidéo ne sont pas de son âge. Il faudrait qu'elle arrête, tout ça n'est pas très sage. Les mémés ne vivent pas dans le monde virtuel. Elles font des confitures, des napperons en dentelle. Mais elle, ça la fait bien rigoler de proposer une partie plutôt qu'une tasse de thé.
Dans le salon de Mémé Vision, pas de question pour un champion, le rustique laisse la place au joystick. Si Julien le perce, mamie panique. Dans le salon.
Le cadeau de Noël de Françoise Le Floch, Sous le béton, Mémé Vision par Robo Sapiens et Franck Joannick. Vous écoutez Culture Monde, c'est le dernier épisode de notre série sur les jeux vidéo, une passion mondiale. Aujourd'hui, l'e-sport où les joueuses s'affirment malgré les obstacles.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Car dans le secteur amateur, les joueuses d'e-sport sont aussi nombreuses que les joueurs, mais dans les compétitions, les hommes représentent plus de 9 joueurs sur 10. Alors comment expliquer cet écart et quelle place se font les femmes aujourd'hui dans l'e-sport? Bonjour Eve Monvoisin.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Comment est-ce qu'on dit votre pseudo? Colombe Bleu.
Colombe Bleu, exactement.
Colombe Bleu, c'est exactement comme ça. Vous êtes joueuse professionnelle de League of Legends, donc ceux qui jouent vous connaissent très certainement, peut-être se sont déjà mesurés à vous. Quand est-ce que vous avez déjà commencé à jouer, d'abord en amatrice, puis en professionnelle?
Alors, j'ai commencé le jeu grâce à mon grand frère quand j'étais petite et par le coup, je suis restée addict contrairement à lui. Et par conséquent, j'ai commencé à prendre le jeu un peu plus au sérieux vers 2019-2020, je pense, où j'ai commencé en mixte, donc en division 3 française. Et ensuite, j'ai fait une pause pour mes études avant de reprendre le jeu suite au Covid et de me lancer dans la scène féminine qui commençait justement son émergence.
Si on en croit les chiffres, vous devez rencontrer assez peu d'autres femmes dans les compétitions. Comment expliquer qu'elles soient à ce point sous-représentées en professionnel?
Alors en fait, c'est aussi un problème, on va dire, du jeu vidéo en lui-même, puisque de base, c'était un produit qui a été pensé et créé par des hommes, pour des garçons. Donc les jeux vidéo, à la toute base, étaient assez genrifiés, si je puis dire. Et par conséquent, aussi, on voit beaucoup plus de femmes dans les jeux un peu moins compétitifs. Et donc si on prend vraiment les nombres, je crois que le ratio de femmes dans les jeux compétitifs est extrêmement bas, même si effectivement, presque un joueur sur deux est une femme de nos jours, mais pas sur tous les types de jeux, malheureusement. Notamment les jeux compétitifs où on en trouve beaucoup moins. C'est pour ça que malheureusement, la probabilité de rencontrer une autre femme est assez peu élevée.
Il y a aussi un effet générationnel, d'après vous. Eve Monvoisin, vous, quand vous étiez plus jeune, petite ou adolescente, est-ce que vos parents étaient désespérés que, ou d'autres adultes dans votre entourage, que vous aimiez tant les jeux vidéo?
Alors oui, en réalité, j'aimais bien les jeux vidéo, mais je ne sais pas que ça non plus. J'aimais beaucoup les jeux vidéo non compétitifs, comme par exemple la Nintendo DS avec Nintendogs, Maison Passion Style, et aussi Léa Passion, maîtresse d'école par exemple. Mais il est vrai que grâce à mon grand frère, qui je pense sans lui, j'aurais peut-être pas touché aux jeux compétitifs ou encore aux jeux, on va dire, plus garçons. À l'époque, c'était comme ça qu'on les qualifiait en tout cas. Et au plus, effectivement, comme vous l'avez dit, la génération de nos parents, en plus des médias qui diabolisaient assez souvent les jeux vidéo, c'était pas très bien vu d'être un geek ou un gamer, donc être une geek et une gameuse encore moins. Donc par conséquent, la popularité du jeu vidéo, c'est à fond tout fait chez la gente masculine qui, c'est assez renfermé auprès des hommes. Et quand les femmes ont tendu à se faire une place, c'est là où effectivement le sexisme s'est un peu imposé par la suite. Mais c'est avant tout, comme vous l'avez dit, générationnel, au niveau des médias qui ne prend pas forcément en considération de façon sérieuse les jeux vidéo, ou encore aussi l'éducation genrée qui a beaucoup, en tout cas du temps de nos parents, joué aussi.
Et des producteurs aussi de jeux vidéo qui longtemps furent des hommes et faisaient des jeux pour hommes, entre guillemets. Qu'est-ce que c'est, Eve, mon voisin, des jeux pour hommes? Est-ce que vous avez déjà été confronté à des jeux en vous disant que ça n'a pas été fait pour vous, ou des pubs de sponsors, enfin tout ce qui tourne autour des jeux vidéo?
Alors les premières publicités de jeux vidéo, si on remonte un peu dans le temps, effectivement, c'était vraiment des musiques très assez rock'n'roll, assez avec des petits garçons, beaucoup d'images, beaucoup de lumière, ou encore notamment la Game Boy qui s'appelle littéralement garçon jeu, et littéralement. Donc effectivement, quand on a ça dans les mains, on se pose pas de questions quand on est assez jeune, puisque ça nous rentre pas vraiment dans le crâne, mais c'est en grandissant où on se pose des questions comme ça, et donc ça rentre un peu en compte dans nos décisions, puisque forcément on verra beaucoup moins de rôle modèle dans les jeux vidéo, donc des rôles modèles féminins en l'occurrence, qui nous pousseront pas en tout cas à nous dire bon bah finalement peut-être qu'en fait c'est juste quelque chose qui peut être affranchi et dans lequel je peux peut-être m'épanouir. Donc on se pose plus de questions que probablement un garçon qui lui, en grandissant, aura connu ça de façon assez peinarde, si je puis dire.
Et une petite pensée à cette pub qui faisait des jeux de mots autour de l'unité de stockage informatique qu'on appelle le bit. 16 bits, c'est plus fort que toi. C'était vraiment le slogan. Clairement, on se sentait pas tellement concerné. Si le sexisme est souvent dénoncé dans le monde du sport, Eve Monvoisin, est-ce que il se retrouve dans l'e-sport? Le sexisme, les mots sexistes, la façon qu'on a peut-être même à vous de mettre en doute votre niveau, le fait que vous soyez parfois plus forte que des hommes, etc.
Alors malheureusement, même une personne qui ne cherche pas la compétition par exemple et qui veut se lancer à niveau plus bas pour gravir les échelons, va effectivement se confronter à du sexisme banalisé. Donc dès qu'une femme va parler dans un vocal ou avoir un pseudo un petit peu féminin, pourrait avoir des remarques sexistes comme « retourne faire à manger »,« fais-moi la cuisine » ou encore « retourne jouer à Animal Crossing », des jeux qui sont eux-mêmes parfois genrés à tort pour une population spécifique. Et par conséquent, ça peut effectivement démotiver pour aller au niveau. Mais je crois qu'il y a un article de la BBC qui précisait quand même que cette toxicité ambiante était avant tout notable auprès des joueurs qui étaient les moins forts en fait de la population du serveur. Et plus on monte en classement, normalement moins on devrait en rencontrer. Cependant, si ce n'est plus forcément auprès des joueurs qu'on peut en rencontrer, par exemple, ce sera peut-être auprès d'organisations. Donc ce n'est pas mon cas, mais j'ai déjà eu en tout cas des échos de certaines joueuses qui sont vues peut-être voir moins de crédit quand elles ont rejoint une équipe mixte, voire en tout cas parfois refuser des sélections, parce qu'on peut se poser la question de, en tant qu'organisation, j'ai avec moi des enfants, enfin si je puis dire des jeunes adultes entre parfois 16, 17 ans jusqu'à 24 ans, 25 ans, est-ce qu'ils ont parfois la maturité et l'expérience nécessaire aussi bien professionnellement que socialement pour écouter ou en tout cas collaborer avec une fille, car même si effectivement on peut avoir des femmes dans le milieu du travail, ça ne pose pas de problème, malheureusement les enfants, on peut se demander s'ils seront assez matures pour éviter le sexisme, en tout cas prendre en considération la femme et la fille comme un égal, si je puis dire.
Peut-être pour conclure, Eve Monvoisin, est-ce qu'il y a des compétitions 100% féminines? Est-ce qu'il y a des équipes 100% féminines? Est-ce que c'est souhaitable dans l'e-sport?
Alors oui, actuellement, je suis moi-même dans une équipe féminine de G2 Esports. Mon contrat signé en fin d'année. Et il y a donc une scène féminine qui a en tout cas pour projet d'être encore plus grande l'an prochain, du moins nous l'espérons toutes. Car on a remarqué que sans rôle modèle, comme vous l'expliquais un petit peu avant, il y a beaucoup moins l'envie auprès des femmes de se donner à fond, de penser qu'elles peuvent aussi le faire. Et par conséquent, cette ligue féminine va normalement pouvoir hisser le niveau vers le haut, augmenter la population féminine et aussi toucher beaucoup plus de joueuses. Et comme on le sait tous, normalement, la consommation des jeux vidéo se fait aussi bien chez les femmes, pardon. Donc c'est un nouveau public à toucher, donc aussi bien économiquement intéressant pour les entreprises.
Donc les sponsors peuvent s'y intéresser parce qu'il y a un public, un nouveau public, quelque chose à jouer, mais aussi peut-être pour redorer leur image pour certaines d'entre elles qui en ont besoin. Le pinkwashing, comme on dit quand on s'intéresse tout d'un coup à la cause des femmes ou aux femmes tout court.
Après, on fait un petit hand-check, comme on dit, on se serre la main car on sait que forcément, ils vont utiliser cette image pour les sponsors ou peut-être redorer leur emblème. Mais c'est aussi bien pour nous car ça va forcément normalement être utile pour la scène féminine et pour les joueuses qui vont être normalement en nombre, avec un meilleur niveau et un encadrement plus sérieux pour les pousser, on l'espère en tout cas, à aller aussi bien en mixte ou non si elles le veulent, pour tenter en tout cas d'avoir autant de chances plus tard qu'un homme.
Merci beaucoup Eve Monvoisin d'avoir été avec nous. Vous êtes joueuse professionnelle de League of Legends. Merci d'avoir été avec nous pour raconter à la fois votre parcours personnel et cette question de la place des femmes aujourd'hui parmi les joueuses d'e-sport. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en vous écoutant Nicolas Besombe et Eve Monvoisin, je me demandais ce que ça voulait dire le niveau en e-sport. On parle pas là de force physique, il n'y a pas d'enjeu de masse musculaire ou autre, donc comparer les hommes mais les femmes dans l'e-sport, ça peut paraître étrange. De quoi on parle quand on parle du niveau d'e-sport?
Bah alors, pour performer dans les jeux vidéo, quiconque a déjà un peu joué à Tetris ou joué à Mario s'est déjà rendu compte que, bah, en fait, si on n'est pas un peu adroit avec ses doigts, si on n'appuie pas dans les bons timings sur les boutons, si on ne fait pas attention à l'ennemi virtuel qui est en train de nous envoyer une petite boule de feu ou quoi que ce soit, bah, en fait, on était moins bon que son grand frère ou que son copain. Aujourd'hui, être bon dans le jeu vidéo, ça nécessite, ça sollicite des compétences à la fois physique, en termes de temps de réaction, en termes de coordination avec les mains, en termes de dissociation des mains, en termes de dextérité, des compétences cognitives, bien évidemment, que ce soit le décodage de l'environnement, la capacité à réaliser plusieurs tâches en même temps, à identifier très vite les différents problèmes, à faire preuve d'inhibition, mais aussi à savoir contrôler ses émotions quand on est sur scène, à savoir réguler son stress, et puis des compétences sociales, savoir bien communiquer, savoir coopérer avec ses camarades et ses coéquipiers ou ses coéquipières, à être en mesure de savoir jouer un rôle au sein d'un groupe et savoir s'adapter face aux différentes stratégies des adversaires. Et donc, c'est tous ces éléments-là qui permettent d'évaluer d'une certaine manière le niveau d'un joueur ou d'une joueuse. C'est que celles et ceux qui font le mieux toutes ces choses-là ont plus de chances de performer dans le jeu vidéo que les autres.
Comment on s'échauffe d'ailleurs en e-sport avant une compétition?
Alors, pendant très longtemps, on s'échauffait pas vraiment, ou alors juste on faisait des parties. Aujourd'hui, Eve pourrait en parler bien mieux que moi, mais on fait à la fois des entraînements cognitivo-moteurs, donc on échauffe principalement ses réflexes et son cerveau, donc avec des jeux de balles, des jeux de ce qu'on appelle des blaze pods, donc c'est des petites lumières qui s'allument et auxquelles il faut réagir. Donc en fait, on fait en sorte d'entraîner son cerveau à réagir très vite et à déclencher des commandes motrices très rapidement. Donc être stimulé et répondre très rapidement. Et puis on peut aussi s'échauffer avec des entraînements dans le sport qu'on connaît très bien, des entraînements HIIT, donc en haute intensité par intervalle, et où là, en fait, le principe est assez évident, c'est que le cerveau, c'est ce qui permet de, entre autres, de l'emporter dans les jeux vidéo. Ce cerveau, il a besoin d'être oxygéné. L'oxygène, eh ben, il provient des poumons, et ben les poumons, c'est quand on bouge et quand on est actif que ben on s'oxygène le mieux. Donc en fait, faire un peu de course à pied, un peu de pompe ou quoi que ce soit, ça peut aussi faciliter à réveiller le corps.
D'où aujourd'hui la grande passion que mettent les associations d'e-sport à convaincre notamment les collectivités locales d'investir dans l'e-sport, d'organiser, donc de subventionner des compétitions. On approche les mairies, les missions locales, les régions. Alors Alors, il y a des collectivités en France comme le Grand Poitiers ou la région Centre-Val de Loire qui paraissent un peu plus ouvertes sur ces questions, même si je précise bien qu'il ne s'agit pas ici de débattre ici est-ce que l'e-sport est un sport ou pas. Ça n'est pas la question. On en parle comme d'un phénomène de société. Sport ou pas sport, certains se posent la question. Moi, ce que je vous demande, Nicolas Besombe, s'il y aura bientôt une filière e-sport études.
Oui, alors, est-ce que ça sera bientôt le cas? Je ne sais pas exactement. En tout cas, il y a des vraies volontés. Aujourd'hui, on se rend bien compte que les joueurs, comme je disais, quand ils débutent leur carrière, c'est souvent très jeune, souvent avant même qu'ils aient passé le bac. Donc, ils doivent faire un choix. Est-ce qu'ils deviennent joueurs professionnels ou est-ce qu'ils continuent leurs études? Puisque la question du double projet, comme on le connaît dans le monde du sport, n'existe pas actuellement dans l'e-sport. Donc, très souvent, les joueurs choisissent une carrière professionnelle, essaient de poursuivre leurs études à distance. C'est pas toujours très évident. Donc, les clubs et les joueurs réclament, et puis les parents aussi, réclament cette mise en place. À titre personnel, je le défends. Je discute beaucoup avec les différents ministères, que ce soit le ministère des Sports, mais aussi, bien évidemment, l'éducation nationale et l'enseignement supérieur, pour justement pouvoir faire en sorte que, de la même manière qu'on a des listes de sportifs de haut niveau qui permettent de bénéficier d'aménagement du temps scolaire, on pourrait avoir des listes de joueurs de haut niveau pour que ces joueurs puissent mener à bien leurs études et leur performance dans l'e-sport.
Avec le problème que peut poser une filière e-sport, c'est notamment que les éditeurs de jeux, il faudrait leur payer des droits, alors que quand on achète un ballon pour le foot, on n'a pas à payer des droits à chaque fois qu'on s'en sert. En tout cas, il y a plein de questions que ça pose et que vous posez aussi dans vos travaux, Nicolas Besombe. Merci beaucoup d'en avoir parlé ici dans Culture Monde. Vous êtes maître de conférence en sociologie du sport à l'Université Paris-Cité. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale, Adrien Toffelet.
Et dans les journaux du monde entier ce matin, Julie, il est beaucoup question de météo. Froid record au Canada, peut-on lire dans la presse là-bas. Une grande vague de froid s'abat depuis plusieurs jours sur une large zone ouest du pays, avec des températures en moyenne autour de moins 35 degrés, précise Global News, et en particulier sur le territoire du Yukon, au nord-ouest, collé à l'Alaska, un territoire composé notamment de montagnes et de forêts peu densément peuplées, environ 45 000 personnes, où dans certaines zones, le Mercure descend même à moins 50, moins 55 degrés. La situation est telle dans le Yukon, détaille Radio-Canada, que les habitants craignent de vivre un Noël fait de pénurie. À Ross River, par exemple, petite ville de 350 habitants, coincée entre une rivière et une chaîne de montagnes, les livraisons d'eau, de nourriture et de carburant se font par camion et camion-citerne, mais impossible d'effectuer ces livraisons aujourd'hui à cause des températures glaciales. Dans le village, le bruit court qu'un camion pourrait réussir à passer pour les ravitailler, mais ils viendraient d'un village à 500 km de là. Alors, en attendant, on se débrouille. Pour faire la vaisselle, on récupère de la neige à l'extérieur, raconte un habitant qui risque de faire de même pour ses toilettes, car il ne lui reste que l'équivalent de deux chasses d'eau dans son réservoir. Le territoire, pourtant, est habitué à des températures extrêmement froides, mais la situation aujourd'hui est inhabituelle.
The freezing temperatures in the Yukon will continue through Christmas. Residents have been asked to reduce.
Les autorités locales, explique cette journaliste de Radio-Canada, demandent aux habitants du Yukon de réduire au maximum leur consommation d'électricité. Car le risque, c'est de passer Noël et les prochains jours dans le noir, avec des coupures de courant aléatoires. Un comble, comme le rappelle la chaîne Weather Network, quand on se souvient qu'il y a encore quelques semaines, les bilans météorologiques de l'année rapportaient que le Canada avait été touché par plusieurs vagues de chaleur exceptionnelles causées par le réchauffement climatique. Du réchauffement climatique, il en est question un peu partout d'ailleurs dans la presse ce matin. En Allemagne, nous dit le Spiegel, qui va probablement vivre son Noël le plus froid depuis 15 ans. Une vague de froid particulièrement forte touche aussi le Maroc, rapporte Africa News. De gros moyens logistiques et humains, avec l'armée notamment, ont été déployés par le gouvernement dans plusieurs régions de haute altitude pour venir en aide à plus de 800 000 personnes concernées, alors qu'au même moment, le pays accueille la Coupe d'Afrique des Nations de football. Pendant ce temps, en Afrique du Sud, le dérèglement climatique se manifeste autrement, avec des pluies torrentielles ces derniers jours dans le sud-est du pays. Le portail d'information IOL montre les rues du centre-ville de Margate, station balnéaire prisée pour ses plages durant les périodes de vacances, comme aujourd'hui, les rues inondées par des torrents d'eau. Dans les zones plus en hauteur, les pluies et tempêtes ont fait au moins 5 morts. Situation similaire en Californie, aux États-Unis, c'est à la une de tous les médias américains. L'état d'urgence a été décrété à Los Angeles et dans plusieurs localités du sud. Une violente tempête hivernale, explique le New York Times, s'est abattue hier sur le sud de la Californie, provoquant des crues soudaines et des coulées de débris qui ont entraîné des fermetures de routes et forcé les habitants à évacuer dans certaines parties de la région de Los Angeles. Des précipitations records sont encore attendues aujourd'hui sur des zones où le sol porte encore les stigmates des feux intenses de forêt de l'hiver dernier. Mais malgré ces phénomènes météo, sur une note un peu plus légère, on peut annoncer que le Père Noël a commencé sa tournée normalement. C'est un marronnier de la presse outre-Atlantique, puisque cela fait près de 70 ans que le NORAD, le commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, organisation canado-américaine de surveillance de l'espace aérien, a pour mission de suivre le vol du Père Noël et de répondre aux appels téléphoniques des enfants qui souhaitent savoir où il en est dans sa tournée. Tout cela à cause d'un numéro de téléphone erroné publié dans un journal américain en 1955. Un enfant qui espérait appelé le Père Noël s'est retrouvé avec un colonel de l'armée de l'air au bout du fil qui a joué le jeu et lui a dit qu'il surveillait la tournée de cadeaux sur son radar. Modernité oblige, on peut également le suivre sur un site dédié et sachez que depuis cette année, nous informe The Independent au Royaume-Uni, le service est désormais opérationnel en dehors de l'Amérique du Nord, disponible en 9 langues dont le français. Si bien que plus de 1000 personnes désormais répondent aux appels. L'année dernière, près de 380 000 appels avait été reçu. Et parmi les bénévoles qui répondent au téléphone tous les ans, le président américain, pendant 20 minutes, séquence toujours filmée. Cette année, c'est-à-dire sur le site de CNN, un petit garçon a demandé à Donald Trump « Mais pourquoi l'armée surveille-t-elle les déplacements du Père Noël ?» Réponse du président, fidèle à lui-même et à sa politique d'immigration, « Parce qu'on veut s'assurer qu'on ne laisse pas rentrer un Père Noël méchant. »
Merci beaucoup Adrien Taufollet.